Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On ne saurait mieux le dire que l'historienne Mélanie Traversier, directrice avec Alban Rameau de l'édition de l'ouvrage intitulé « La musique a-t-elle un genre ?» Toutes les femmes artistes, qu'elles soient musiciennes, autrices, peintres, cinéastes, ont subi les mêmes processus d'invisibilisation ou en tout cas de disqualification. Si leur stade suprême est l'oubli total, ils passent aussi par des discours qui minorent le rôle des femmes dans l'histoire des arts, les plaçant par exemple sous une tutelle masculine, réduisant ces artistes à n'être que la sœur d'eux, la fille d'eux, l'épouse d'eux, la muse d'eux, la maîtresse d'eux, comme on l'a vu avec Germaine Taillefer, grande compositrice mais souvent qualifiée de mascotte du groupe des Six. Une autre forme de dénigrement consiste à exclure les musiciennes des formes réputées ambitieuses, comme la symphonie, pour les reléguer à des genres supposés mineurs, à des petites formes considérées comme gracieuses et élégantes, comme la cantate par exemple. En 2015, sur France Culture, c'était l'existence et les œuvres de femmes compositrices du XIXe siècle qui étaient saluées dans un numéro de Continent Musique d'été, au cours duquel Anna Sigalevitch s'entretenait avec la musicologue Florence Badol-Bertrand et la mezzo-soprano Marianne Crébassa. Renaissance et statut des femmes compositrices au XIXe siècle, diffusée le 17 juillet 2015, en direct et en public depuis Montpellier, à l'occasion des 30 ans du festival Radio France.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continent Musique. Dernier volet aujourd'hui de notre semaine consacrée au festival Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon. Nous sommes en public, toujours en direct de la cour Soulages du rectorat. Pour cette dernière première partie, c'est sur le statut et la reconnaissance des compositrices au XIXe siècle que nous allons nous pencher, car le festival a à cœur de faire entendre leur musique depuis quelques années. J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler la musicologue professeure au CNSM de Paris, Florence Badol-Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Et la mezzo-soprano Marianne Crébassa, qui, en plus d'interpréter le rôle-titre dans Fantasio d'Offenbach, qui se jouera demain soir, chantera des mélodies de Pauline Viardot et des leaders d'Alma Mahler lors du récital consacré à des compositrices, le mardi 21 juillet au Quorum, en compagnie de la pianiste Edna Stern et du trio Karénine. Si on connaît Clara Schumann, Fanny Mendelssohn et Alma Mahler, c'est surtout comme sœurs et femmes d'eux, plus qu'en tant que compositrices. Et les noms d'Hélène de Montgeroux, Mel Bonis, Louise Farinck ou Pauline Viardot, qui sont pourtant les plus connus, rayonnent encore aujourd'hui de manière assez confidentielle. Car même si certaines compositrices ont pu s'exprimer, l'historiographie semble les avoir négligées. Pas évident de trouver un fil rouge et de les relier. La figure d'Hélène de Montgeroux semble s'imposer pour la toute fin du XVIIIe et le début du XIXe. Florence Badol-Bertrand, vous avez choisi de nous faire entendre l'étude numéro 6, interprétée par Bruno Robillard. Thank you. Voici pour cette étude 106 et non 6, comme annoncé précédemment, d'Hélène de Mongeroux. Florence Badol-Bertrand, pourquoi avoir choisi de nous faire entendre cette étude ?
Alors, cette étude a un caractère romantique, assez nostalgique. Pourtant, Hélène de Mongeroux l'a écrite probablement à la fin du XVIIIe siècle, puisque cette personnalité exceptionnelle a été la première femme professeure de piano au Conservatoire de Paris à la création, nommée en 1795, ce qui lui avait d'ailleurs sauvé la tête, si j'ose dire, puisqu'elle était marquise, et que c'est donc en jouant la Marseillaise devant le comité de salut public qu'elle a pu être ainsi recrutée, grâce à ses amis avec lesquels elle jouait avant la Révolution et qui connaissaient la qualité, la valeur de cette musicienne.
Elle a été professeure pendant 3 ans au conservatoire. Elle a quitté en 1798.
Oui, elle a quitté très vite parce que après la Révolution, elle aurait dérogé à travailler en tant qu'aristocrate, justement. Et puis, on subodore aussi qu'elle aurait peut-être eu quelques mésententes avec ses collègues professeurs de piano, puisque ça n'est pas à elle qu'on a commandé la grande méthode dans le cadre de la politique pédagogique du conservatoire, qui publie des méthodes à la fin du XVIIIe siècle. Et on l'a commandé à son collègue Adam. Et alors qu'elle a écrit une fabuleuse méthode qui nous reste aujourd'hui avec toute sa richesse et dont vient cette étude 106, par exemple.
Les 114 études du cours complet ?
Oui, voilà, 711 pages de cours complet. Un cours fabuleux qui a été utilisé, semble-t-il, beaucoup plus, on est en train de découvrir, beaucoup plus qu'il n'y a paru historiquement jusqu'ici.
Alors, à la toute fin du XVIIIe et à l'aube du XIXe siècle, il y a eu une fenêtre un petit peu moins coercitive avant le Code civil pour les femmes compositrices ?
Oui, c'est tout de même vraiment une exception, Hélène de Mongeroux, et c'est son talent qui lui a valu cette place-là. Elles étaient deux à la création du conservatoire, donc le 3 août 1795, seulement deux. Elle, professeure de première classe, payée autant que ses collègues masculins, ce qui ne sera pas le cas ensuite de Louise Farin, que nous entendrons tout à l'heure, et qui sera aussi un des grands professeurs de piano, mais qui a dû réclamer son dû pour être payée, à l'instar de ses collègues masculins. Et donc, un professeur de solfège, qui était, elle, payée, troisième classe. Donc c'était tout à fait minoritaire, une toute petite fenêtre.
Elle était considérée comme la plus grande pianiste de son temps.
Oui, elle était vraiment très appréciée. Tous les pères fondateurs du conservatoire avaient l'habitude, avant la Révolution, de jouer dans son salon, donc dans le château de Mongeroux, à côté de Pontoise, et connaissaient sa valeur exceptionnelle. C'est un enfant prodige, Hélène de Mongeroux.
Jérôme Dorival, qui a écrit un livre sur elle qui s'appelle « Le Marquise et la Marseillaise », est donc vraiment passionné pour cette figure, pour cette femme, Hélène de Mongeroux. Cependant, jusqu'à il y a 10 ans, même pas, il n'existait pas un seul disque d'elle. C'est lui qui les a fait produire. Il a produit un disque donc avec des interprétations de Bruno Robillard, un autre avec Nicolas Stavi. C'est tout de même très étonnant qu'il n'y ait pas eu un disque jusqu'à présent de sa musique.
Oui, c'est vrai, mais parce que en fait, la principale source est par ce cours complet de pianoforte. Il y a aussi 5 sonates, des mélodies également, très belles mélodies pour une tessiture qui doit vous correspondre tout à fait.
Mais Marianne Crevassa qui est
Marianne,
avec nous.
Voilà. Mais en fait, l'essentiel de la production d'Hélène de Mongeroux est dans ses études. Et ce qu'on a découvert en prenant la peine de les jouer, c'est que plus que des études, ce sont comme des morceaux, des pièces de genre, des pièces dans le style romantique que reprendront par exemple Mendelssohn ou Schumann. Vous voyez, c'est Lieder sans parole, par exemple, ou ces petites pièces chez Schumann qui ne sont pas des grandes sonates, mais qui campent comme ça une atmosphère, des petites formes, oui.
Marianne Crevassa, vous avez été révélée ici à Montpellier en 2010, dans Les Hauts de Hurlevent, de Bernard Herrmann. Vous interprétiez le rôle d'Isabella Linton.
Oui, c'est ça.
Je vous propose qu'on écoute un extrait tout de suite de « Love is like the white rose briar ».
The rose will bloom.
C'est du Bernard Herrmann, pas une compositrice, même si c'est adapté du roman d'Emily Brontë. Mais il nous semblait trop dommage que les auditeurs n'aient pas le plaisir de vous entendre, Marianne Crébassa. Dans cet air, c'est vous qui vous accompagnez au piano. Vous avez étudié le piano, le chant, la musicologie.
Oui, c'est ça.
Les compositrices sont étudiées au conservatoire
Oui, mais très peu. J'ai envie de dire, mais oui, quand même. Moi, j'ai beaucoup travaillé de les leaders de Alma Mahler, je les connaissais déjà au conservatoire, mais tout dépend des professeurs aussi qui proposent ces airs-là à travailler ou pas. Mais c'est une musique qui est quand même assez, qui demande un certain niveau technique déjà.
Et en musicologie et en piano, vous avez étudié aussi des œuvres de compositrices?
Oui, aussi, oui, tout à fait.
Au piano de Clara Schumann?
Voilà, exactement. Ensuite, je me souviens plus, c'était déjà il y a bien longtemps, mais effectivement, Clara Schumann.
Mais c'est essentiellement oui. Tout de même en chant qu'on étudie des compositrices.
Oui, notamment, surtout grâce au festival finalement, et qui me propose chaque année ce récital autour des femmes compositrices. Et j'ai découvert Caroline Unger-Sabatier, qui est la créatrice de la 9e de Beethoven, Alma Mahler, Pauline Viardot dans son habit de compositrice.
De compositrice. Aussi, vous allez interpréter justement des airs de Pauline Viardot notamment.
Oui.
Nous n'avons pas encore ces airs chantés par vous, donc c'est votre remplaçante Cécilia Bartoli.
Ah, très bien, encore mieux.
On va entendre dans Aïe Louli de Pauline Viardot.
Oh,
Aïe Louli de Pauline Viardot, chantée par Cécilia Bartoli. Marianne Crébassa, vous êtes mezzo.
Oui.
Pauline Viardot était contralto coloratour, c'est bien ça?
Oui, si on veut la classer quelque part. En fait, elle avait une tessiture très très longue.
Avec une amplitude de 3 octaves, hein, c'est ça?
Voilà, c'est ça, 2 octaves et demie, je crois, ou quelque chose comme ça. Du fa grave au contrut, on disait.
Il y a dans son écriture sa virtuosité d'interprète, comme Liszt ou Rachmaninoff écrivait pour le piano. Oui, c'est très difficile à chanter.
Difficile non, parce que pour le coup, ça reste vocal. On sent que c'était une chanteuse, mais on sent qu'elle s'est amusée dans différents styles. Elle voulait pas avoir un style à elle. Elle voulait, ce qui était important pour elle, c'était la communication. C'était, d'ailleurs, elle a beaucoup écrit des mélodies sur des mélodies russes, sur, voilà, en plusieurs langues. Elle aimait que sa musique soit surtout transmise et que...
Elle avait des relations aussi avec Turgenev, qui
voilà, exactement. Et, voilà.
C'est plutôt comme interprète ou comme compositrice qu'on la connaît, Florence Badol-Bertrand, Pauline Viardot?
Alors, jusqu'à ces dernières années, c'est quand même plutôt comme interprète, et en particulier pour l'Orphée qu'elle a fait retravailler à Berlioz et à Saint-Saëns pour adapter ce rôle d'Orphée à sa voix, puisque c'était à l'origine écrit dans la version française pour un ténor aigu. On la redécouvre effectivement comme compositrice avec surprise. Il y a aussi un opéra délicieux, Cendrillon. Ces opéras qui étaient donnés à Bougival dans sa grande maison, où on pouvait opéra de chambre finalement à destiné à être entendu entre amis, partagé avec
dans les salons. L'importance des salons aussi du 19e siècle, où là les femmes pouvaient aussi s'exprimer de façon plus libre, parce que ça se faisait dans les salons, mais difficilement hors, quand on était aristocrate ou qu'on avait une place haute dans la société.
Ah, le salon est capital, oui, pour ces femmes compositrices. C'est leur lieu d'expression avant d'être reconnues, d'avoir la possibilité d'être jouées par la Société des concerts du Conservatoire, comme Louise Farinck, par exemple, d'être jouées à la Société nationale après 1870. Mais tout ça nous porte à quelques exceptions près, comme Sophie Guy, par exemple, ou Louise Bertin, qui ont été jouées à l'opéra ou à l'opéra comique. Ça nous porte plutôt à la fin du 19e siècle.
Rares sont les femmes qui ont osé écrire de la musique symphonique au 19e siècle. Louise Farinck l'a fait. Écoutons tout de suite le troisième mouvement de sa troisième symphonie en sol mineur, le Scherzo Vivace. Thank you. voici ce troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Louise Farinck, le Scherzo Vivace. Louise Farinck a écrit beaucoup de musique de chambre, elle a écrit des symphonies, des ouvertures. Cependant, le Larousse de 1983 la mentionne seulement comme professeur de piano. Comment vous l'expliquez, Florence Badel-Bertrand ?
Alors, elle était aussi éditrice aux côtés de son mari et concertiste. En fait, il n'y a pas vraiment de reconnaissance. Parfois, la presse peut être très élogieuse. Berlioz l'a été aussi quelque peu pour Louise Farinck, pour Louise Bertin aussi, par exemple. Ce qui nous aurait dû déjà attirer notre attention et nos oreilles sur leurs œuvres, mais la postérité les a très très vite oubliées. Et ce qu'on a retenu de Louise Farinck, c'est qu'elle était aussi à l'origine d'une grande collection de pièces de piano, donc le côté pédagogique finalement, mais d'une certaine manière les femmes se laissaient aussi porter par ce courant-là, parce qu'elles savaient que là elles avaient une reconnaissance.
Elles ont formé de grands musiciens, Louise Farinck et Hélène de Mongeroux.
Oui, oui, tout à fait. Et puis, elles ont vraiment laissé ces traces éditoriales de cours de piano, d'éditions de musique ancienne pour Louise Farinck aussi.
Les classes d'écriture musicale s'ouvrent à partir de quelle période au conservatoire,
alors,
aux jeunes filles ?
Alors, on a ce repère-là qui est plus tangible finalement en France avec l'enseignement du conservatoire de Paris. Les classes d'écriture sont ouvertes aux femmes à partir de 1863. Et jusque-là, elle travaillait seule ou par cours particuliers. Il y a quelques personnalités qui ont été très très attentives justement à la formation des jeunes femmes, comme Reicha, qui enseignait l'écriture au Conservatoire de Paris, ou Fétis à Bruxelles, qui ont vraiment œuvré et les ont fait travailler évidemment comme leurs élèves hommes, mais pas dans le cadre du conservatoire. Et alors la reconnaissance suprême, c'était quand même d'avoir l'accès au prix de Rome. Et à partir de 1903, les femmes peuvent présenter le prix de Rome.
Et la musique de Louise Farinck, sa musique symphonique, était jouée de son vivant ?
Elle a été jouée, mais finalement surtout à Bruxelles. C'est Fétis qui l'appréciait particulièrement, qui était le directeur du conservatoire de Bruxelles, et qui l'a fait donner en plusieurs occasions. Ça a parfois été un peu plus difficile en France. Parfois, les Farinck ont financé eux-mêmes les concerts.
Parce que le mari de Louise Farinck la soutenait dans son travail de
oui,
compositrice.
Oui, tout à fait. Il était flûtiste à l'origine. Et puis, il était, bien sûr, c'était un compagnon où il est très, très
attentif.
Oui.
Marianne Crébassa, vous interprétez ce mardi des leaders d'Alma Mahler. Oui. Écoutons tout de suite « Là où est Sommernacht » par Maria Ricarda Wessling.
Finsternisse, Leere.
C'était La Ouest Sommernacht d'Alma Mahler par Maria Ricarda Wessling. Vous allez interpréter ce leader, Marianne Crébassa, en récital?
Oui, tout à fait.
Vous en interprétez plusieurs?
J'ai choisi de faire le cycle entier, oui. Parce que j'avais déjà interprété quelques mélodies, et là je voulais faire vraiment le cycle. Je trouvais ça important aussi, c'est très important parce que ça a été composé de cette manière-là et dans cet ordre-là. Et voilà, je trouve que ça donne aussi une belle idée de l'écriture d'Alma.
Comment vous ressentez cette musique, Florence Badel-Bertrand?
Cette musique, alors sans revendiquer une féminité particulière, mais tout de même me paraît très très sensuelle. Celle d'Alma Mahler, celle de Augusta Holmes aussi, par exemple. Il y a un type d'expression qui n'est finalement pas masculin et qui passe par ce legato. Enfin, je pense que Marianne en parlera mieux que moi, cette manière de phraser qui
exactement,
est
oui.
Très très enveloppée,
oui, extrêmement.
Très sur le souffle.
Oui. Oui, c'est très naturel. Enfin, je trouve qu'elle écrit vraiment très bien pour la voix. J'étais très étonnée, d'ailleurs.
Oui, beaucoup de souplesse dans la ligne vocale.
Oui, beaucoup. Oui.
Et alors, on est étonnée par la modernité de l'écriture d'Alma Mahler, qui s'arrête de composer le jour de son mariage, puisque son mari lui a interdit d'ajouter une note à son corpus.
Oui, il y a une lettre qui date de 1901, juste avant qu'il se marie, où il y a quelques phrases que j'ai relevées de cette lettre. « Crois-tu devoir renoncer à un grand moment de ton existence dont tu ne pourrais te passer si tu abandonnes complètement ta musique afin de posséder la mienne et aussi d'être mienne ?» Voilà, une autre phrase qui dit « Les rôles doivent être bien distribués, celui du compositeur, de celui qui travaille, m'incombe. » Ce qui a rendu Alma Mahler très amère.
Elle rêvait d'écrire un opéra. Et elle voulait faire quelque chose de grandiose, quelque chose qu'aucune femme n'aurait jamais fait, et elle n'a pas eu l'occasion de le faire par la suite.
Vous aimez, Marianne Crébassa, vous pencher sur les biographies des compositeurs?
Oui.
Que...
Oui, j'aime beaucoup le faire, mais après avoir travaillé la musique. Mais beaucoup sur la biographie de chanteurs, je suis très attirée par par le côté humain, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière la musique j'aime beaucoup. Je suis souvent attirée beaucoup plus par l'âme, disons, de la personne qui chante ou qui compose, que parfois. Des fois, je trouve que ça éclaire vraiment la musique une fois qu'on sait comment cette personne pense, a agi, a vécu dans sa vie. Et Alma, c'est incroyable parce qu'elle a laissé une correspondance incroyable avec Mahler, et puis un journal intime dans lequel elle écrivait tout. Et je trouve ça intéressant. Oui.
Il y a d'autres femmes comme ça qui ont des histoires incroyables à cette période. Clara Schumann, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots, Florence Badel-Bertrand.
Mais Clara Schumann, c'est d'abord une immense pianiste, et c'est pour ça qu'elle est reconnue au 19e siècle. On la connaît bien davantage que son époux. Il est arrivé qu'on demande quel était le monsieur qui l'accompagnait et quel était son rôle. Et puis, alors elle est compositrice aussi, bien qu'elle ne veuille pas le reconnaître. D'ailleurs, elle a refusé d'écrire une note après la mort de Schumann, justement. Et puis, elle est aussi la mère de 8 enfants. Donc c'est assez faramineux d'imaginer quelle a été la vie de cette femme. 8 enfants qu'elle a élevés et qui ont grandi à la maison.
Il y a Fanny Mendelssohn aussi qui est un cas assez tragique, me semble-t-il, qui était la sœur aînée donc de Félix Mendelssohn, extrêmement talentueuse. Quand on entend sa musique de chambre, c'est même assez troublant par rapport à son frère Félix. Et le père et Félix lui ont interdit, en tout cas, de publier ou d'assumer un vrai rôle de compositrice. C'est avec Marie-Paule Belle que nous allons conclure cette première partie. Une chanson que nous écoutons en boucle depuis hier avec toute l'équipe installée au rectorat. Chanson composée et interprétée par Marie-Paule Belle, écrite par Françoise Mallet-Joris, Wolfgang et moi.
Je rue dans les brancards, je suis Léopoldine, la sœur de Mozart. Et comme la renommée n'est pas un boomerang, je n'aurais pas dû le laisser signer Wolfgang. Wolfgang et moi, ça n'allait pas tout seul. Il était fort en gueule, moi sur sur la clé de fa 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 Il passait son temps à jouer à la poupée, tandis que j'écrivais mes symphonies bidons. Wolfgang et moi, c'était comme chien et chat. Il faisait le joli cœur avec mes droits de top top. Qui Figaro et patati patati patata et patati patati patata et patati patati patata et patati patati patata. Quand papa recevait des marquises au clavecin, Wolfgang leur racontait des bluettes et des trucs. Ses fourberies à lui valaient de sens que. Et moi je me faisais suer à finir la marche turque. Wolfgang et moi, c'était le bon vieux temps. Il jouait les Don Juan, moi je le composais.
C'était Reconnaissance et statut des femmes compositrices au XIXe siècle, une émission proposée par Anna Sigalevitch dans Continent Musique d'été avec Marianne Crébassa et Florence Badol-Bertrand. Première diffusion le 17 juillet 2015 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.